Bonjour à tous, merci de votre persévérance. J'espère que la nuit a été reposante pour la plupart d'entre vous. Je vous fais part de petites communications du service communication de Bijoutière qui vous fait savoir que les topos d'hier et d'aujourd'hui sont enregistrés et bientôt disponibles sur le site de la Bijoutière. Et j'ai aussi annoncé que j'enverrai par mail à l'un de vous qui transmettra les documents que j'ai balayés aussi, qui sont le texte de Mgr Battu, que j'ai lu hier, et puis celui dont je vais parler ce matin, qui s'appelle « La vocation du dirigeant d'entreprise du Conseil pontifical Justice et Paix ». J'enverrai ça par mail, vous pouvez partager bien sûr, et peut-être aussi enrichir le site de la Bijoutière de différents documents de ce type-là, peut-être. Et pourquoi pas aussi d'une bibliographie, comme il y a certains d'entre vous qui ont lu différents ouvrages en rapport un peu avec les thèmes qu'on a traités ce week-end. Il pourrait y avoir, je ne sais pas si c'est déjà le cas peut-être, si ça se trouve, sur le site, une liste un peu de propositions, une sorte de recension d'ouvrages qui pourraient être intéressants pour d'autres. Mais je ne suis pas pour autant candidat pour le poste communication, etc. Moi, je donne des idées, c'est plus facile. Donc ce matin, on va, sur la même méthode un petit peu qu'hier, balayer les deux derniers chapitres de l'encyclique, 5e et 6e. Donc sur ces lignes d'orientation et d'action, maintenant il s'agit d'avoir constaté un petit peu le problème et de se dire quels sont les lieux où nous pouvons agir, il y en a un certain nombre. Et donc j'essaierai de compléter tout ça. Le 6e chapitre, c'est sur la spiritualité écologique. Et j'essaierai de compléter tout ça par quelques idées proposées par le Conseil pontifical Justice et Paix dans ce document lié à la vocation du dirigeant d'entreprise. Ça vaut aussi pour ceux qui ne sont pas forcément dirigeants d'entreprise, mais qui sont en entreprise. Il y a la guerre à côté. Là. Alors, on y va. Donc, 5e chapitre, quelques lignes d'orientation et d'action. Donc, en différents paragraphes, il donne un petit peu les différents lieux où peut s'exprimer, ou devrait s'exprimer plutôt, des lignes d'action concrètes. Voilà, c'est le thème. Je suis au numéro 163. Essayons à présent de tracer les grandes lignes de dialogue à même de nous aider à sortir de la spirale d'autodestruction dans laquelle nous nous enfonçons. Voilà. Ça reste pas très réjouissant, mais l'idée c'est quand même de pouvoir réagir à ça. Le premier numéro là-dedans, ça concerne la politique internationale. Donc il fait un peu le constat que voilà, il y a beaucoup d'intelligence déployée pour plein de choses dans les progrès techniques et autres, mais que cette, la même intelligence que l'on déploie pour un impressionnant développement technologique ne parvient pas à trouver des formes efficaces de gestion internationale pour résoudre les graves difficultés environnementales et sociales. Un consensus mondial devient indispensable. Voilà. Donc il y a déjà une réflexion à voir au niveau international, c'est peut-être celle qui nous touche le moins parce qu'on se dit on n'est pas déjà pas tellement engagé forcément politique. Et si jamais on l'était, ce serait très local, voilà, on n'a pas tellement d'influence sur les relations internationales. Néanmoins, attendons quand même cet aspect des choses. Et notamment parce que les entreprises dans lesquelles vous êtes peut-être sont des entreprises internationales, et elles ont parfois plus de pouvoir, au sens de pouvoir un peu technocratique, parfois que les États. Donc, d'une manière ou d'une autre, beaucoup interviennent au niveau international du simple fait d'appartenir à l'entreprise. Il y a un réseau international peut-être. La politique, en tout cas, et l'entreprise réagissent avec lenteur, dit le pape François. Politique et entreprise sont loin d'être à la hauteur des défis mondiaux. Il est un peu sévère, encore une fois, là, sur la politique, qu'il trouve inefficace. Mais il espère quand même, il faut espérer que l'humanité du début du XXIe siècle pourra rester dans les mémoires pour avoir assumé avec générosité ses graves responsabilités. Grosso modo, ce n'est pas un appel à telle ou telle idée politique, mais c'est un appel à la responsabilité politique, chacun à son niveau. Le mouvement écologique mondial a déjà fait un long parcours, il y a plein de choses qui se font au niveau international pour l'écologie, de l'environnement. Cependant, les sommets mondiaux de ces dernières années sur l'environnement n'ont pas répondu aux attentes, parce que, par manque de décisions politiques, ils ne sont pas parvenus à des accords généraux, vraiment significatif et efficace sur l'environnement. Donc les sommets mondiaux, pour l'instant, inefficaces. C'est peut-être un peu caricatural, peut-être qu'il y a eu des petites choses qui sont nées de ça quand même, Mais globalement, une telle énergie internationale n'a pas donné un résultat tellement international, quoi. Les principes énoncés demandent encore des moyens efficaces et souples de mise en œuvre pratique. Il y a plein de choses énoncées, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de mots, mais il n'y a pas de mise en œuvre et pas de moyens pour la mise en œuvre pratique. Il note quand même des expériences positives ici ou là qui se font. Il parle de la convention de Bâle. On peut citer également la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages, etc. Il y a des choses qui se font par-ci par-là. La convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone. Donc, il y a des choses qui se font. Mais s'agissant du changement climatique, les avancées sont hélas très médiocres. Nous les croyants, nous ne pouvons pas cesser de demander à Dieu qu'il y ait des avancées positives. C'est intéressant qu'il mélange cet engagement politique et en fait la prière aussi. Il faut remarquer là. Nous les croyants, il y a tout ce phénomène mondial de prise de conscience et qui essaye tant bien que mal de faire émerger des choses, ça ne marche pas tellement. C'est pour l'instant assez médiocre, mais, petite parenthèse en quelque sorte là, nous les croyants, nous ne pouvons pas cesser de demander à Dieu qu'il y ait des avancées positives. On peut se poser la question, est-ce que je prie pour ça? Est-ce que je porte dans ma prière devant le Seigneur cette intention de l'écologie, des politiques internationales, des sommets mondiaux, etc. Voilà, je me pose la question à moi aussi. Hein. Mais c'est une question qui nous est posée ici. Demander à Dieu qu'il y ait des avancées positives. J'avance un peu. Numéro 172 à la fin. De toute manière, dit-il, c'est avant tout une décision éthique fondée sur la solidarité entre tous les peuples. On revient toujours au même problème. Il ne s'agit pas d'idées politiques, de théories, etc. Ça, tout le monde peut en avoir. Ce qui fera changer des choses, en fait, ce sera un changement dans l'homme, dans sa façon d'agir, dans sa façon de penser et de s'engager pour le changement des choses. De toute manière, c'est avant tout une décision éthique fondée sur la solidarité entre tous les peuples. Voilà. Ça doit être motivé par un devoir en quelque sorte moral. En définitive, il faut un accord sur les régimes de gestion pour toute la gamme de ce qu'on appelle les biens communs globaux. Voilà. Ce qui motive, c'est le bien commun, c'est pas seulement une donnée théorique, philosophique qu'on peut développer, etc., et justifier intellectuellement. Le bien commun, c'est un souci moral, c'est un souci qui vient du cœur, finalement. C'est un souci où on se sent solidaire, fondamentalement, existentiellement, des autres. Voilà. Donc ça engage de plus que l'idée politique. Finalement, ça engage la profondeur de la personne. La maturation d'institutions internationales devient indispensable. Voilà. Finalement, il y a un petit peu un engagement, un appel aussi, on peut entendre ça, je pense, un appel pour les chrétiens à vivre, à s'engager dans la politique. Voilà, il y a plein de domaines, on a fait un peu la liste hier, domaine éducatif, domaine culturel, domaine philosophique, etc. Finalement, il y a la place aussi pour un engagement chrétien dans la politique. En raison de ça, peut-être. Et il dit en particulier, dans cette perspective, la diplomatie acquiert une importance inédite. Voilà. Il y a une place à prendre pour les chrétiens dans la diplomatie, par exemple, à cause de cette question écologique intégrale. Ça veut dire qu'il faut avoir à cœur de former dans les milieux chrétiens des gens qui occupent tout ce genre de postes, du diplomate au menuisier. Enfin, il faut qu'on investisse tous ces lieux-là. Donc voilà pour l'international. Ensuite, il passe au niveau inférieur. Le dialogue en vue de nouvelles politiques nationales et locales. Donc là, il est assez critique aussi vis-à-vis des politiques que nous connaissons. On va voir ça. Face à la possibilité d'une utilisation irresponsable des capacités humaines, planifier, coordonner, veiller et sanctionner sont des fonctions impératives de chaque État. Comment la société prépare-t-elle et protège-t-elle son avenir ? Dans un contexte de constante innovation technologique. Et là, il parle du droit. Le droit qui établit les règles des comportements acceptables à la lumière du bien commun est un facteur qui fonctionne comme un modérateur important. Les limites qu'une société saine, mature et souveraine doit imposer sont liées à la prévision, à la précaution, aux régulations adéquates, à la vigilance dans l'application des normes, à la lutte contre la corruption, aux actions de contrôle opérationnel. Il y a une jurisprudence croissante visant à diminuer les effets polluants des activités des entreprises. Mais le cadre politique et institutionnel n'est pas là seulement pour éviter les mauvaises pratiques, mais aussi pour encourager les bonnes pratiques, pour stimuler la créativité qui cherche de nouvelles voies, pour faciliter les initiatives personnelles et collectives. Là, à mon avis, il dresse aussi un programme pour les juristes. Il y a un lieu important pour les juristes, un lieu aussi là pour inverser la machine, pas seulement être là pour cadrer et limiter les dégâts, mais il faut aussi que la juridiction, les lois soient au service d'un progrès finalement, un progrès éthique, un progrès écologique intégral, si on veut, positivement. Donc il y a la place aussi pour les juristes. Concernant la politique plus directement, donc là je suis dans les numéros 177, 178, il parle du drame de l'immédiateté politique, soutenu aussi par des populations consuméristes, qui conduit à la nécessité de produire de la croissance à court terme. Répondant à des intérêts électoraux, les gouvernements ne prennent pas facilement le risque de mécontenter la population avec des mesures qui peuvent affecter le niveau de consommation ou mettre en péril des investissements étrangers. Voilà. Bon, en France, on sait comme ailleurs. C'est la grève tout le temps, dès qu'on touche à quelque chose, je sais pas quoi. Mais c'est un vrai problème, ça. C'est énorme, c'est très bloquant, quoi. Donc il faut en être conscient que le mode politique qu'on connaît aujourd'hui ne permet pas, ou n'aide pas en tout cas, à des changements à long terme. Mais il parle de la grandeur politique. Là, il encourage quand même à changer d'être dans la politique. La grandeur politique se révèle quand, dans les moments difficiles, on œuvre pour les grands principes et en pensant au bien commun à long terme. Il est très difficile pour le pouvoir politique d'assumer ce devoir dans un projet de nation. Mais il y a la place pour des hommes politiques magnanimes, pour des gens généreux, pour des gens qui se donnent. C'est la réponse. Ici, comme dans tous les domaines, il faut des hommes qui se donnent, quoi, finalement. Et il insiste beaucoup sur, du coup, les initiatives locales. Vu qu'à l'échelle internationale, ça patine, vu qu'à l'échelle nationale, bien souvent, c'est très court-termiste comme procédé, du coup, il encourage à, là où chacun est, au niveau très local, de s'investir. Il parle d'exemples sur les énergies renouvelables, etc. Des exemples qui montrent que l'instance locale peut faire la différence, alors que l'ordre mondial existant se révèle incapable de prendre ses responsabilités. Voilà. Mais localement, il peut y avoir des choses qui bougent. Et en plus, il va expliquer que les choses qui bougent localement finissent par faire bouger la politique et l'économie. Il faut, dit-il, que la décision politique soit incitée par la pression de la population. Voilà, il parle de la pression de la population qui doit s'exercer vis-à-vis de la politique pour forcer en quelque sorte la décision politique. Grosso modo, le changement viendra de la base. Si on change la base, la politique telle qu'elle est va s'adapter à la base qui change. Voilà, c'est comme ça que fonctionne la politique. Donc si la base change, la politique va changer. Si l'habitude des consommateurs change, l'économie va changer. Si les citoyens ne contrôlent pas le pouvoir politique national, régional et municipal, un contrôle des dommages sur l'environnement n'est pas possible non plus. Donc grosso modo, il nous invite à contrôler la politique en tant que citoyen. On peut se poser la question, je ne suis pas forcément dans la politique, mais n'empêche, je suis citoyen. Est-ce que ma vie de citoyen intègre le fait de travailler à l'orientation des décisions politiques, dans les votes, dans les débats, dans je sais pas quoi. Mais il y a une place aussi pour le rôle du citoyen dans cette réflexion-là. Parce que grosso modo, c'est le citoyen qui fera changer les choses. Mais tant au niveau national que local, il reste beaucoup à faire. Voilà. Donc, il parle de la gestion des transports, de plein de choses. Mais il dit, voilà, il y a tant de choses que l'on peut faire. C'est un peu le cri du cœur à la fin du numéro 180. Il y a tant de choses que l'on peut faire. Alors on se dit, c'est impossible de tout changer, c'est trop gros, c'est un monstre trop puissant, il y a trop de... Voilà. Mais en grosso modo, il ne faut pas être d'accord avec ça. Il faut se dire, il y a tellement de choses qu'on peut faire, ne serait-ce que localement, à son petit niveau, qu'il ne faut pas se priver, quoi. Voilà, il revient un peu pour taper sur l'immédiateté politique en disant « La continuité est indispensable parce que les politiques relatives au changement climatique et à la sauvegarde de l'environnement ne peuvent pas changer chaque fois que change un gouvernement. Voilà, » il faut vraiment quelque chose de long terme. « Qu'un homme politique assume ses responsabilités avec les coûts que cela implique ne répond pas à la logique d'efficacité et d'immédiateté de l'économie, ni à celle de la politique actuelle. Aujourd'hui, c'est difficile. Mais cet homme politique, s'il ose le faire, cela le conduira à reconnaître la dignité que Dieu lui a donnée comme homme. Et il laissera dans l'histoire un témoignage de généreuse responsabilité. Il y a vraiment un appel à donner aux hommes politiques une existence, une réalité humaine profonde, grande. Cependant, il faut ajouter que les meilleurs mécanismes finissent par succomber quand manquent les grandes finalités, les valeurs, une compréhension humaniste et riche de sens qui donne à chaque société une orientation noble et généreuse. Voilà, donc là encore, il ne s'agit pas encore d'avoir des visions à court terme, il faut qu'une vision à long terme soit alimentée par plein de choses qui sont de l'ordre de l'humanité. Finalité, valeur, compréhension humaniste, richesse du sens, voilà. Noblesse, générosité. Troisièmement, après les politiques nationales, le dialogue et la transparence dans les processus de prise de décision. Ça nous concerne peut-être plus directement, parce que dans les projets qu'on peut avoir en entreprise ou ailleurs, il y a des prises de décision à l'intérieur desquelles il faut apprendre finalement à élargir un peu le regard et intégrer des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'intégrer. Il dit par exemple, numéro 183, « Une étude de l'impact sur l'environnement ne devrait pas être postérieure à l'élaboration d'un projet. » Grosso modo, aujourd'hui, le processus, c'est on fait un truc, on construit, et après, on étudie l'impact sur l'environnement. Voilà. Ça devrait être antérieur. On devrait avoir le réflexe d'intégrer dans la gestion du projet tout ce qui va intervenir sur l'environnement. Et quand on dit l'environnement, c'est pas seulement la pollution. Il va parler de l'urbanisme, de la pollution visuelle et sonore. Il va parler de plein de choses, quoi. Il faut qu'elle soit insérée, cette réflexion sur l'impact de l'environnement, dès le début et élaborée de manière interdisciplinaire, transparente et indépendante de toute pression économique ou politique. Elle doit être en lien avec l'analyse des conditions de travail et l'analyse des effets possibles, entre autres sur la santé physique et mentale des personnes, sur l'économie locale, sur la sécurité. Les résultats économiques pourront ainsi être déduits de manière plus réaliste, prenant en compte les scénarios possibles et prévoyant éventuellement la nécessité d'un plus grand investissement pour affronter les effets indésirables qui peuvent être corrigés. La sincérité et la vérité sont nécessaires dans les discussions scientifiques et politiques qui ne doivent pas se limiter à considérer ce qui est permis ou non par la législation. Aujourd'hui, on se limite tant que c'est permis, c'est cadré légalement. C'est bon, on y va. Il faut apprendre peut-être à intégrer davantage de choses un peu plus gratuitement, plus généreusement, quitte à remettre en cause des investissements qu'il faut diminuer ou augmenter au contraire, ou redéfinir un peu le périmètre du projet, etc. Certains projets qui ne sont pas suffisamment analysés peuvent affecter profondément la qualité de vie dans un milieu pour des raisons très diverses, comme une pollution acoustique non prévue, la réduction du champ visuel, la perte de valeur culturelle, les effets de l'utilisation de l'énergie nucléaire. La culture consumériste qui donne priorité au court terme et à l'intérêt privé peut encourager des procédures trop rapides ou permettre la dissimulation d'informations. Voilà. Attention à ne pas aller trop vite. Et à bien ouvrir dans la vérité toutes les conséquences que le projet va avoir sur les différents domaines qu'on n'a pas forcément l'habitude d'intégrer normalement dans les projets. Dans toute discussion autour d'une initiative, une série de questions devrait se poser en vue de discerner si elle offrira ou non un véritable développement intégral. On fait la liste des questions qu'il faut se poser à chaque fois. Pourquoi ? Par quoi ? Où ? Quand ? De quelle manière ? Pour qui ? Quels sont les risques ? À quel coût ? Qui paiera les coûts ? Et comment le fera-t-il ? Ça c'est concret. On peut dans les projets que vous menez pour différentes raisons. Est-ce que se pose la question quelque part, pourquoi, par quoi, où, quand, de quelle manière, pour qui, quels sont les risques, à quel coût, qui paiera les coûts, et comment le fera-t-il ? Je pense que ce n'est pas exhaustif, mais ça peut déjà élargir un peu la réflexion. Cela n'entraîne pas qu'il faille s'opposer à toute innovation technologique qui permette d'améliorer la qualité de vie d'une population, mais dans tous les cas, il doit toujours être bien établi que la rentabilité ne peut pas être l'unique élément à prendre en compte. Or souvent, la seule étude est faite sur la rentabilité. Et ça ne peut plus de rester comme ça. Le résultat de la discussion pourrait être la décision de ne pas avancer dans le projet, mais pourrait être aussi sa modification ou l'élaboration de propositions alternatives. Il faut être prêt à remettre en cause des choses hein, et des processus qui sont aujourd'hui un petit peu acquis, systématiques. Donc ça, c'était la partie sur les prises de décision dans les processus de prise de décision. Quatrièmement, la question de l'économie, politique et économie en dialogue pour la plénitude humaine. Donc là, il fait une réflexion sur le rapport entre politique et économie, en constatant aujourd'hui, en pensant au bien commun, nous avons impérieusement besoin que la politique et l'économie en dialogue se mettent résolument au service de la vie, spécialement de la vie humaine. La politique ne doit pas se soumettre à l'économie. Et l'économie elle-même ne doit pas se soumettre aux diktats ni aux paradigmes d'efficacité de la technocratie. Voilà. Aujourd'hui, il y a une forme de hiérarchie. La technocratie qui impose sa dictature à l'économie, qui impose sa dictature à la politique. Voilà. Alors que c'est vrai que la politique qui prend le dessus et qui gouverne l'économie et l'usage de la technique, normalement. La crise financière de 2007-2008 était une occasion pour le développement d'une nouvelle économie plus attentive aux principes éthiques et pour une nouvelle régulation de l'activité financière spéculative et de la richesse fictive. Mais il n'y a pas eu de réaction qui aurait conduit à repenser les critères obsolètes qui continuent à régir le monde. On s'est tapé une grosse crise en 2008. Quelques années après, finalement, qu'est-ce qui a changé ? À peu près rien. On continue pareil. Je ne suis pas un pro du domaine financier du tout, mais c'est assez étonnant quand même qu'il y a des remises en cause, il y a des réflexions, il y a des interrogations sur le sujet, mais objectivement, on a l'impression d'être incapable de changer quoi que ce soit de profond. Donc c'est un vrai problème. Nous devons, alors il travaille un peu sur l'éthique dans l'économie, il revient sur la question du progrès. Nous devons nous convaincre que ralentir un rythme déterminé de production et de consommation peut donner lieu à d'autres formes de progrès et de développement. Voilà. Il y a d'autres pistes de progrès et de développement à chercher, un peu ailleurs que dans la production à tout crin. Et on trouvera ces autres voies, ça, certainement en réduisant un petit peu le rythme de la consommation. La diversification de la production ouvre d'immenses possibilités à l'intelligence humaine pour créer et innover, en même temps qu'elle protège l'environnement et crée plus d'emplois. Ce serait une créativité capable de faire fleurir de nouveau la noblesse de l'être humain. Voilà, c'est intéressant que la réflexion sur le progrès technique doit être centrée sur la noblesse de l'être humain, parce qu'il est plus digne d'utiliser l'intelligence avec audace et responsabilité pour trouver des formes de développement durable et équitable dans le cadre d'une conception plus large de ce qu'est la qualité de vie. Inversement, il est moins digne, il est superficiel et moins créatif de continuer à créer des formes de pillage de la nature seulement pour offrir de nouvelles possibilités de consommation et de gains immédiats. Finalement, l'homme va trouver une dignité supplémentaire en limitant un petit peu ses envies, son appétit sur le développement technique, etc. Et en croyant à l'importance de remettre les valeurs humaines au centre, au cœur de la préoccupation. Il faudra penser donc à marquer une pause en mettant certaines limites raisonnables, voire à retourner en arrière avant qu'il ne soit trop tard. Ça, c'est intéressant d'avoir cette expression du retour en arrière, parce que c'est une bombe dans la mentalité d'aujourd'hui par rapport au progrès, de justifier ce que même et de l'appeler comme ça, un retour en arrière avant qu'il ne soit trop tard, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en clair, on est dans une impasse. Quand il faut faire marche arrière, ça veut dire que le chemin dans lequel on est ne conduit pas à quelque chose. Voilà. Donc quand on est dans une impasse, il y a deux solutions. Soit on se prend le mur, soit on fait marche arrière. Voilà. Faut choisir. C'est pourquoi l'heure est venue d'accepter une certaine décroissance dans quelques parties du monde. Le terme de décroissance, ça mériterait d'être creusé. Comment une forme de décroissance peut trouver sa place dans nos activités, dans notre consommation, nos loisirs, nos vacances, les biens que nous avons? Comment la décroissance peut trouver sa place dans notre activité professionnelle, entrepreneuriale? Voilà, il faut bien qu'elle s'applique quelque part, cette décroissance, pour que surgissent de nouveaux modèles de progrès. Il ne s'agit pas de décroître pour décroître, il s'agit de faire émerger une autre forme de progrès, de faire surgir de nouveaux modèles de progrès. Donc là, je suis au numéro 194. Il s'agit finalement de redéfinir le progrès. Un développement technologique et économique qui ne laisse pas un monde meilleur et une qualité de vie intégralement supérieure ne peut pas être considéré comme un progrès. J'étais frappé, petite parenthèse perso là, j'étais en Corée du Sud il y a 2 mois là. C'est un pays qui a vécu une métamorphose technologique gigantesque en peu d'années. Et c'est bouleversant, frappant de voir à quel point ils sont malheureux, les gens là-bas. Ils sont oppressés par le travail, il y a un taux de suicide extrêmement important. Voilà, donc c'est le pays le plus connecté au monde, ben super, mais au prix d'hommes profondément malheureux, quoi. Et fatigués physiquement et moralement. C'est le pays, il paraît, où on dort le moins au monde, parce qu'ils bossent comme des brutes, il y a une pression énorme, et voilà, ils sont très développés, mais humainement, il n'y a pas de progrès, quoi. Voilà. Bon, c'est un petit peu la vision caricaturale que j'en ai, c'est très superficiel, c'est vrai aussi dans beaucoup d'endroits ailleurs. Mais ça pose question, ça justifie, je dirais, en tout cas, on a des éléments scientifiques, quasiment sociaux, qui justifient qu'on se repose objectivement à la question du progrès pour l'homme. Bon. Nous avons besoin d'une politique aux vues larges, on en a parlé déjà. Ça, c'est bon. Cinquièmement, on invite les religions à s'insérer dans cette question-là, dans le dialogue avec les sciences. Il dit « On ne peut pas soutenir que les sciences empiriques expliquent complètement la vie, la structure de toutes les créatures et la réalité dans son ensemble. Cela serait outrepasser de façon indue leurs frontières méthodologiques limitées. » Donc il justifie la place de la pensée religieuse dans cette réflexion globale sur l'humanité, sur le progrès et sur la science. Les principes éthiques que la raison est capable de percevoir peuvent réapparaître toujours de manière différente et être exprimés dans des langages divers, y compris religieux. Voilà, donc la religion a droit d'intervenir avec son langage propre dans la réflexion éthique sur ce sujet-là. Toute solution technique que les sciences prétendent apporter sera incapable de résoudre les graves problèmes du monde si l'humanité perd le cap, si l'on oublie les grandes motivations qui rendent possible la cohabitation, le sacrifice, la bonté. Il y a il ne s'étale pas là-dessus, mais il y a quand même des mots forts, des expressions fortes, quand il invite vraiment à mettre dans le jeu de ce changement, de cette méthode, cette ambition de changer un peu les choses, des notions comme le sacrifice. C'est pas forcément... Alors, je ne sais pas comment vous l'entendez-vous, je ne sais pas comment... d'autres personnes athées qui lisent cette encyclique entendent le mot sacrifice. Je pense que c'est un mot qui parle à peu près à tout le monde quand même. Mais ouais, ça dit un petit peu les qualités qu'il faut développer dans tous les domaines pour obéir en quelque sorte à cet impératif qui s'impose de sauvegarder l'environnement, de sauvegarder notre propre humanité, etc. Il fait appel au trésor de sagesse des différentes religions, cultures, etc. aussi. Il remarque que la majorité des habitants de la planète sont croyants ou se déclarent croyants, et donc ça doit inciter les religions à entrer dans un dialogue. Un dialogue entre les sciences elles-mêmes est aussi nécessaire, et un dialogue aussi entre les religions et les religions avec la science. C'est un aspect important. Voilà pour le cinquième chapitre. Et enfin, sixième et dernier chapitre, ce qu'il appelle l'éducation et spiritualité écologique. Donc on rentre dans une dimension plus spirituelle. En fait, quelle est l'humanité qui est supposée répondre à tous ces problèmes de gestion économique, politique, nationale, internationale, etc. Finalement, il faut une éducation et une spiritualité pour ça. Il faut des hommes nouveaux. Donc au numéro 202, pour introduire son sixième chapitre, ainsi un grand défi culturel, spirituel et éducatif qui supposera de longs processus de régénération et mise en évidence. Voilà. Ce qui apparaît, c'est que nous sommes face à un défi culturel, spirituel et éducatif long, un long processus. Et le vrai défi, en fait, il est là. Le défi n'est pas tellement un défi technique. Il est un défi culturel, spirituel et éducatif. Donc, premièrement, miser sur un autre style de vie. L'obsession de la consommation doit être un petit peu guérie. En effet, plus le cœur de la personne est vide, plus elle a besoin d'objets à acheter, à posséder et à consommer. Donc, on ne va pas guérir la personne en l'empêchant de consommer, etc. Il faut guérir à la cause, à la racine. Le problème, c'est que le cœur de la personne est vide. Voilà. Donc il faut combler le cœur de l'homme, finalement. C'est une première manière de répondre à ce problème fondamental. L'obsession d'un style de vie consumériste ne pourra que provoquer violence et destruction réciproque, surtout quand seul un petit nombre peut se le permettre. Un changement dans les styles de vie pourrait réussir à exercer une pression saine sur ceux qui détiennent le pouvoir politique, économique et social. Ce qu'on disait déjà un petit peu tout à l'heure, c'est globalement pour faire changer la politique, pour faire changer le mode économique des entreprises, de la consommation, etc. Finalement, ça partira d'un changement de vie, de style de vie, ben des citoyens, des consommateurs, etc. C'est ce qui arrive, dit-il, quand les mouvements de consommateurs obtiennent qu'on n'achète plus certains produits et deviennent ainsi efficaces pour modifier le comportement des entreprises, en les forçant à considérer l'impact environnemental et les modèles de production. C'est un fait, quand les habitudes de la société affectent le gain des entreprises, celles-ci se trouvent contraintes à produire autrement. Cela nous rappelle la responsabilité sociale des consommateurs. La responsabilité sociale des consommateurs, ça veut dire penser éthiquement sa manière de consommer, et ça veut dire se sentir investi d'un pouvoir. En tant que consommateur, nous avons un pouvoir finalement. Donc ce pouvoir, il faut l'utiliser à bon escient pour faire pression sur les entreprises. Quand nous sommes capables de dépasser l'individualisme, un autre style de vie peut réellement se développer et un changement important devient possible dans la société. Deuxièmement, il parle de l'alliance entre l'humanité et l'environnement. Là aussi, autre lieu de défi éducatif. L'éducation, par exemple, à la responsabilité environnementale, peut encourager divers comportements qui ont une incidence directe et importante sur la préservation de l'environnement. Il y a plein d'exemples faciles, ne serait-ce qu'à la maison, où on peut changer son mode de vie, son style de vie. Il dit, je sais plus où, quelque part, celui qui apprend à mettre un pull plutôt qu'à monter le chauffage, il change son style de vie. C'est quelque chose qu'on peut faire facilement à la maison, pour des raisons économiques, mais pour des raisons, même si on a les moyens de se chauffer, on a aussi moyen de mettre un pull dans ce cas-là. Voilà. Donc tout cela fait partie d'une créativité généreuse et digne. Et l'important, c'est pas tant qu'on répond à un problème économique, mais c'est que finalement, on donne droit à sa dignité, finalement. Ne pas se réduire à un être humain consommateur et se sentir investi d'une mission vis-à-vis de la planète dans son ensemble, c'est finalement retrouver sa vraie dignité. Tout cela, dit-il, fait partie d'une créativité généreuse et digne qui révèle le meilleur de l'être humain. Le fait de réutiliser quelque chose au lieu de le jeter rapidement, parce qu'on est animé par de profondes motivations, peut être un acte d'amour exprimant notre dignité. Voilà. Donc ça élève en fait toutes les petites choses qu'on fait, le tri sélectif, machin, etc., qu'on fait plus ou moins par devoir, avec plus ou moins de cœur, etc. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que ça peut être le lieu d'une charité. C'est un lieu de sanctification, finalement. C'est un lieu où s'exprime notre conception de la création, notre conception de la relation que nous avons avec Dieu créateur, avec la création qu'il a faite. Et donc, finalement, ça engage plus qu'une réflexion éthique, ça engage vraiment la cohérence profonde du chrétien, en quelque sorte. Il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas changer le monde. Ces actions répandent dans la société un bien qui produit toujours des fruits au-delà de ce que l'on peut constater. Les milieux éducatifs sont divers, le numéro 213, mais je voudrais souligner l'importance centrale de la famille. Il y a un numéro sur la famille. La famille constitue le lieu de la culture de la vie. Dans la famille, on cultive les premiers réflexes d'amour et de préservation de la vie, comme par exemple l'utilisation correcte des choses, l'ordre et la propreté, le respect pour l'écosystème local et la protection de tous les êtres créés. La famille est le lieu de la formation intégrale. Voilà. Puisqu'il y a une écologie intégrale, il faut une formation intégrale. Eh bien, ça démarre dans la famille, où se déroulent les différents aspects intimement reliés entre eux, de la maturation personnelle. Dans la famille, on apprend à demander une permission avec respect, à dire merci, comme expression d'une juste évaluation des choses qu'on reçoit, à dominer l'agressivité ou la voracité, à demander pardon quand on cause un dommage. Ces petits gestes de sincère courtoisie aident à construire une culture de la vie partagée et du respect pour ce qui nous entoure. Donc, il y a de quoi se sentir aussi investi d'une mission dans les familles, pour les parents, etc. Qui va au-delà de maintenir, d'entretenir une forme de culture familiale, qui dit, bah, nous, on est comme ça, c'est notre culture, etc. C'est plus grand, en fait, encore que ça, cette éducation-là. Toutes les communautés chrétiennes ont un rôle important à jouer dans cette éducation. Donc, il parle des religieux, des séminaires, etc., dans lesquels il faut qu'il y ait aussi une formation à ça. Mais toute communauté chrétienne, qu'elle soit familiale, qu'elle soit associative, qu'elle soit paroissiale, qu'elle soit je sais pas quoi, toutes les communautés chrétiennes ont un rôle important à jouer dans cette éducation. Troisièmement, ce qu'il appelle la conversion écologique. Donc là, ça s'adresse plus encore aux chrétiens. Je veux proposer aux chrétiens quelques lignes d'une spiritualité écologique qui trouvent leur origine dans des convictions de notre foi. Car ce que nous enseigne l'Évangile a des conséquences sur notre façon de penser, de sentir et de vivre. Il ne sera pas possible de s'engager dans de grandes choses seulement avec des doctrines. Il faut aussi une mystique qui nous anime, des mobiles intérieurs qui poussent, motivent, encouragent et donnent sens à l'action personnelle et communautaire. Donc il veut donner un petit peu ces mobiles profonds, spirituels, qui vont motiver notre effort dans ce sens-là. Ils ont donc besoin d'une conversion écologique qui implique quoi ? De laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Voilà. La conversion écologique chrétienne va être liée à l'écoute et au jaillissement de toutes les conséquences de notre rencontre avec le Christ. Notre rencontre avec le Christ induit une relation avec le monde qui nous entoure. Entendre tout ce qu'implique notre relation au Christ par rapport au monde qui nous entoure. Vivre la vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu est une part essentielle d'une existence vertueuse. Il insiste, cela n'est pas quelque chose d'optionnel ni un aspect secondaire dans l'expérience chrétienne. Jusqu'à présent, on pourrait avoir pensé que voilà, la question de protéger la nature, etc., est un petit peu annexe, accessoire, optionnel. En fait, on a un peu plus découvert ce week-end que cette vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu est une vocation intrinsèque que tous nous partageons, que tous nous avons finalement. Et ne pas y faire droit, c'est en fait réduire sa dignité de créature, de créer à l'image de Dieu et d'homme finalement à qui la création a été confiée. Conversion, on dit aussi prise de conscience, etc. Cela implique aussi de reconnaître ses propres erreurs, péchés, vices ou négligences, et de se repentir de tout cœur, de changer intérieurement. Voilà. Donc ça implique une vraie démarche chrétienne et spirituelle, cette question-là. La conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une conversion communautaire. Voilà. Il ne s'agit pas seulement de faire individuellement cette démarche-là, il faut que communautairement, je veux dire familialement, paroissialement, toutes les formes de communautés auxquelles nous appartenons, eh bien, se sentent investies de tout ça aussi. Cette conversion suppose différentes attitudes qui se conjuguent. En premier lieu, elle implique la gratitude et la gratuité. Voilà. Qu'est-ce qui sont un petit peu les aspects de cette conversion écologique, cette spiritualité écologique ? Il y a gratitude et gratuité. C'est-à-dire une reconnaissance du monde comme un don reçu de l'amour du Père, ce qui a pour conséquence des attitudes gratuites, de renoncement, et des attitudes généreuses, même si personne ne les voit ou ne les reconnaît. diverses convictions de notre foi développées au début de cette encyclique aident à enrichir le sens de cette conversion, comme la conscience que chaque créature reflète quelque chose de Dieu et a un message à nous enseigner, ou encore l'assurance que le Christ a assumé en lui-même ce monde matériel et qu'à présent ressuscité, il habite au fond de chaque être, en l'entourant de son affection comme en le pénétrant de sa lumière, et aussi la conviction que Dieu a créé le monde en y inscrivant un ordre et un dynamisme que l'être humain n'a pas le droit d'ignorer. Quand on lit dans l'Évangile que Jésus parle des oiseaux et dit qu'aucun d'eux n'est oublié au regard de Dieu, pourra-t-on encore les maltraiter ou leur faire du mal ? J'invite tous les chrétiens à expliciter cette dimension de leur conversion en permettant que la force et la lumière de la grâce reçue s'étendent aussi à leur relation avec les autres créatures ainsi qu'avec le monde qui les entoure et suscitent cette fraternité sublime avec toute la création que Saint François d'Assise a vécu d'une manière si lumineuse. La spiritualité chrétienne propose une autre manière de comprendre la qualité de vie et encourage un style de vie prophétique et contemplatif. Un autre aspect de cette conversion écologique qui a une dimension proprement chrétienne, c'est une autre manière de comprendre ce qu'on appelle la qualité de vie et d'encourager un style de vie prophétique et contemplatif. Avec la fameuse expression « moins est plus ». La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété et une capacité de jouir avec peu. C'est un retour à la simplicité. C'est l'explication de « moins est plus ». En fait, avoir moins matériellement, c'est avoir plus humainement. C'est être plus humainement. Ça veut dire donc s'habituer à cette fameuse croissance par la sobriété, jouir avec peu, retour à la simplicité. Il est question du bonheur aussi. Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent. Il n'est pas facile de développer cette sainte humilité, ni une sobriété heureuse, si nous nous rendons autonomes, si nous excluons Dieu de notre vie et que notre moi prend sa place. Si nous croyons que c'est notre propre subjectivité qui détermine ce qui est bien ou ce qui est mauvais. Voilà. Pour pouvoir se recentrer spirituellement, bien sûr, ça passe par se recentrer aussi par rapport à Dieu. On ne va pas faire naturellement des efforts sur la consommation et tout ça si on ne se remet pas en cause, nous, dans notre place d'être humain dans la création. Il faut se remettre en dessous de Dieu, finalement. Et puis un petit détail pratique, peut-être. Numéro 227. S'arrêter pour rendre grâce à Dieu avant et après les repas est une expression de cette attitude. Je propose aux croyants de renouer avec cette belle habitude et de la vivre en profondeur. Voilà, le bénicité au début du repas et l'action de grâce après. Voilà un lieu pratique, accessible, facile à mettre en œuvre et qui peut être le lieu d'un progrès spirituel, d'une redécouverte de la place de Dieu, de la création, de la façon que nous avons de l'exploiter, au bon sens du terme, de nous en nourrir, etc. Donc ça passe par les petites choses de ce type-là. Celui qui reconnaît l'appel de Dieu à agir de concert avec les autres dans ses dynamiques sociales doit se rappeler que cela fait partie de sa spiritualité, que c'est un exercice de la charité et que de cette façon il mûrit et il se sanctifie. Voilà. Grosso modo, il intègre cette question de l'écologie dans la spiritualité chrétienne, comme étant une dimension fondamentale et existentielle de la spiritualité chrétienne. Et il termine, sixièmement, sur les signes sacramentaux et le repos pour célébrer, donc les questions des sacrements et de l'Eucharistie en particulier qui assument la nature, le pain et le vin, du repos dominical qui est lié aussi à l'Eucharistie. Là, je vous donne un petit aperçu seulement. Mais grosso modo, les sacrements, pour nous chrétiens, notre conversion écologique passe aussi par l'usage des sacrements. Les sacrements sont un mode privilégié de la manière dont la nature est assumée par Dieu et devient médiation de la vie surnaturelle. Dans l'Eucharistie, la création trouve sa plus grande élévation. Pour nous chrétiens, nous contemplons dans l'Eucharistie la plus grande élévation de la création. L'Eucharistie est aussi source de lumière et de motivation pour nos préoccupations concernant l'environnement. Elle nous invite à être gardiens de toute la création. Le dimanche, la participation à l'Eucharistie a une importance spéciale. Le dimanche est le jour de la résurrection, le premier jour de la nouvelle création, dont les prémices sont l'humanité ressuscitée du Seigneur, gage de la transfiguration finale de toute la réalité créée. En outre, ce jour annonce le repos éternel de l'homme en Dieu. Donc, une petite réflexion sur le repos aussi, qui a sa place. On a parlé du travail, il y a tout un... des paragraphes sur le travail, et là il y en a aussi sur le repos. Le repos a sa place dans l'écologie, dans la spiritualité écologique, dans la conversion écologique. En effet, le repos est un élargissement du regard qui permet de reconnaître à nouveau les droits des autres. Ainsi, le jour du repos, dont l'Eucharistie est le centre, répand sa lumière sur la semaine tout entière, et il nous pousse à intérioriser la protection de la nature et des pauvres. Il termine avec une réflexion sur la Trinité. Dieu est en trine, Dieu est en communion, Père, Fils et Esprit Saint. Il y a dans toute la création cette dimension de communion qui vient de la Trinité. Tout est lié, on l'a vu dans toute cette encyclique, tout est lié, et cela nous invite à mûrir une spiritualité de la solidarité globale qui jaillit du mystère de la Trinité. Voilà. On est aussi appuyé dans le dogme, on pourrait dire, dans la foi chrétienne, dans ce qui est là peut-être plus spécifique, le mystère de la Trinité. Et bien, appuyer aussi ici une spiritualité de la solidarité globale, une spiritualité de l'écologie intégrale. Voilà, c'est fini notre lecture pour cette encyclique. Pardon d'avoir été un peu balayant comme ça. J'espère que ça a été en tout cas une découverte pour certains et puis une relecture intéressante pour d'autres. Dans le temps qui reste, je voudrais juste faire un peu pareil sur ce document dont je vous ai parlé déjà, qui s'appelle « La vocation du dirigeant d'entreprise » proposé par le Conseil pontifical Justice et Paix, qui date de il y a quand même déjà quelques années. Est-ce que j'ai retrouvé la date ? De 2011, apparemment. Donc, il y a eu un séminaire de réflexion, et c'est un petit peu le rapport de cette réflexion de ce Conseil pontifical Justice et Paix sur le sujet. Je vous l'enverrai par mail pour que vous puissiez le lire, mais voilà, je vous présente un petit peu en quelque sorte. Il invite grosso modo les chefs d'entreprise chrétiens à se sentir responsables d'une mission particulière et comme étant aussi les dépositaires d'une vocation particulière en fait. Le terme de vocation arrive dans plusieurs endroits. Il y a une vocation commune des baptisés. Les situations dans lesquelles nous sommes, par la force des choses, par la vie que nous menons, par les carrières que nous avons, etc., nous responsabilisent. À celui qui a reçu beaucoup, on demandera beaucoup, etc. Donc, il y a une invitation à se considérer comme ayant une mission de baptiser là où nous sommes, et le travail est un lieu où nous avons une mission de baptiser, et quand en plus il y a une mission de responsabilité, il y a un devoir particulier de prendre en charge cette responsabilité, pas seulement en termes de technique de travail, mais se sentir plus largement, humainement responsable d'un bien commun. Dans le résumé du début, il présente l'obstacle le plus important pour un dirigeant d'entreprise. Alors quand je dis dirigeant, vous pouvez toujours interchanger par employé d'entreprise, tout ce que vous voulez, quoi. Histoire de ne pas dire « moi je suis pas chef, ça ne regarde pas ». L'obstacle le plus important pour un dirigeant d'entreprise sur le plan personnel est de mener une double vie. Cette double vie est caractérisée par la division entre la foi et les activités d'affaires quotidiennes. Dire « je suis chrétien à la maison et le dimanche » et « quand je suis au boulot, je travaille sur le mode commun. » Donc c'est ce qu'on appelle cette double vie. Et donc le document est organisé autour de trois thématiques. Voir, juger, agir. Voilà à quoi est appelé chef d'entreprise ou le responsable en entreprise. À voir, à juger et à agir. Voir, c'est la capacité de voir les défis et les occasions dans le monde des affaires. Capacité à voir cet aspect, enfin cette ambiance, disons, qui est marquée par différentes choses, la mondialisation, les technologies de communication, la financiarisation, les changements culturels, voilà, tout ça marque notre société. Eh bien, n'importe quel responsable, notamment l'entreprise, est censé voir cela, voir un peu ça comme des signes des temps, et adapter son modèle d'action avec selon l'époque que nous vivons aujourd'hui, marquée par donc, mondialisation, technologie de communication, financiarisation, changement culturel. Ensuite, juger. Les bonnes décisions d'affaires sont celles qui sont ancrées dans les principes sociaux de fond, tels que le respect de la dignité de la personne humaine, le service du bien commun, une vision de l'entreprise en tant que communauté de personnes. Des principes concrets permettent aux dirigeants d'entreprise de centrer ses activités sur donc, trois choses. La production de biens et de prestations de services qui répondent aux véritables besoins humains. L'organisation d'un travail productif et porteur de sens. L'utilisation judicieuse des ressources. Je ne développe pas, mais c'est en gros les trois thématiques. Produire des biens qui sont réellement utiles. Organiser un travail productif et porteur de sens. Utiliser judicieusement les ressources. Ça, c'est dans la thématique du jugement. Juger les choses. En gros, discerner finalement. Et agir. Les dirigeants d'entreprise peuvent transformer leurs aspirations en réalité en suivant leur vocation. S'ils sont motivés par un sentiment qui va au-delà de la réussite financière, en s'assurant que les dons de la vie spirituelle, les vertus et les principes socio-éthiques fassent partie intégrale de leur vie et de leur travail, ils peuvent surmonter la division dans leur vie et recevoir la grâce de promouvoir le développement intégral de toutes les parties prenantes des affaires. Donc ça développe une spiritualité de travailleur finalement. Il parle de la grâce, voilà, comment la grâce de Dieu, comment la vie spirituelle, comment les vertus vont influencer ma façon de travailler, et ma façon d'être responsable aussi de l'entreprise ou d'autres personnes. Pour les chefs d'entreprise chrétiens, le temps est venu d'être des témoins de la foi, de la confiance en l'espérance et de faire preuve d'amour. Voilà, il y a vraiment un appel, une sorte de mission à s'investir chrétiennement dans son travail, quoi. Bon, il y a beaucoup de choses, mais on arrête, je me donne 3 minutes encore. Donc voir le monde des affaires, défis et occasions à saisir, c'est la partie voir, il faut être un peu attentif au fonctionnement du monde et pas être un petit peu benêt ou niais et naïf et faire un peu semblant que le monde est comme il est et puis qu'on s'en occupe pas. Il faut savoir tenir compte du monde tel qu'il est, donc voir un peu ce qui se passe. Ça c'est une partie. Après il développe les questions de la mondialisation, des technologies de communication, la financiarisation de l'économie qui sont voilà, le contexte dans lequel nous travaillons. Les changements culturels, il faut savoir s'adapter à tout ça et répondre aussi aux besoins que ça fait naître. Juger ensuite l'importance des principes éthiques sociaux. Cette culture est fondée pour le chef d'entreprise chrétien sur l'évangile du Christ. Aller puiser dans l'évangile aussi, ce qui va pouvoir modifier, éclairer ma façon d'être responsable de travailler. Donc il y a des grands principes. Il y a évidemment la dignité des personnes. Il y a un développement sur la dignité des personnes. Il y a aussi la notion du bien commun. On en a parlé aussi. Quelques principes éthiques pratiques pour les entreprises. Il y revient encore. Les trois points que j'ai dit tout à l'heure. Apporter une réponse aux véritables besoins humains par la création, le développement et la production des biens et de services. Organiser un travail positif et productif. Utiliser les ressources en vue de créer et partager les richesses et la prospérité de façon durable et soutenable. Voilà. Ce n'est pas des choses très nouvelles en fait dans ce document, mais ça a le mérite de les rassembler un petit peu et de pouvoir nous poser la question finalement, très concrètement, est-ce que je produis des choses utiles? Est-ce que j'organise un travail de manière respectueuse, digne, etc.? Est-ce que j'utilise correctement les ressources qui sont attribuées pour ça? Après, il développe un peu ces points-là. Il développe aussi la question de la subsidiarité. Créer des structures de subsidiarité pour permettre à tous d'être créatifs, par exemple, notamment les subordonnés. Le principe de la subsidiarité est enraciné dans la conviction que créé à l'image de Dieu, le développement et la perfection de l'homme impliquent la meilleure utilisation possible de son intelligence et de sa liberté. La dignité des personnes n'est jamais respectée si cette intelligence et cette liberté sont restreintes ou supprimées inutilement. Le principe de subsidiarité reconnaît que dans les sociétés humaines, de petites communautés coexistent avec des sociétés plus larges. Par exemple, une famille en tant que communauté fait partie d'un village ou d'une ville, etc. Le principe porte que nous ne devons en aucun cas oublier de façon arbitraire la liberté et la consultation de ceux qui sont les premiers à subir les effets d'une activité. Voilà. C'est aussi bien les clients que toute la chaîne inférieure de production, etc. Il y a beaucoup à réfléchir sur cette subsidiarité, cette délégation, cette manière de responsabiliser ceux qui sont en situation inférieure, etc. Pour travailler cette subsidiarité, ça suppose de trois points encore. Définir clairement le rayon d'autonomie et de décision de chaque niveau de l'entreprise. Voilà, c'est concret ça. Voir à ce que vos salariés disposent de bons outils, de la bonne formation, de l'expérience voulue pour pouvoir effectuer correctement leurs tâches. Accepter que les personnes à qui vous avez affecté des tâches et assigné des responsabilités prendront des décisions en toute liberté, donc en toute confiance, ce qui implique une certaine prise de risque. Voilà. Chose assez concrète. Je passe. Le témoignage des œuvres, il invite les chefs d'entreprise chrétiens, les chrétiens en entreprise, à être vraiment témoins de quelque chose de grand. Les chefs d'entreprise chrétiens sont des hommes et des femmes d'action qui ont démontré un véritable esprit d'entrepreneuriat, tout en reconnaissant la responsabilité que Dieu leur a confiée d'accepter généreusement et fidèlement la vocation des affaires. Alors, c'est une traduction, il y a pas mal d'expressions assez mal traduites, je trouve, mais on comprend ce que ça veut dire. La vocation des affaires. Voilà, vous l'avez, on l'a par la force des choses. Ces chefs sont motivés par bien plus que la réussite financière, par un intérêt personnel éclairé ou un contrat social abstrait. La foi permet aux chefs d'entreprise chrétiens de voir un monde bien plus large, un monde dans lequel Dieu est à l'œuvre et où les intérêts et les désirs des personnes ne sont pas la seule force dirigeante. Lorsqu'ils reçoivent leur vocation, les chefs d'entreprise sont également disposés à recevoir les principes qui contribuent au développement intégral de toutes les personnes liées à l'entreprise. Cette vocation de chef d'entreprise, encore une fois, il parle de recevoir cette vocation, elle est reçue par le fait qu'on y est, quoi. Vous y êtes, vous avez une vocation. Faut chercher plus loin. Le premier acte auquel l'Église convie les chefs d'entreprise est celui de recevoir les sacrements. Mettrez les choses à leur place, Dieu à sa place d'abord. Premier acte auquel l'Église convie les chefs d'entreprise est celui de recevoir les sacrements, d'accepter les Écritures, de respecter le jour du Seigneur, de prier, d'observer le silence et d'autres disciplines de la vie spirituelle. Commencez par être chrétien. Le deuxième acte auquel l'Église convie les chefs d'entreprise est celui de donner de façon à répondre à ce que nous avons reçu. Cet acte de donner n'est jamais un simple minimum légal. Il doit représenter une entrée en communion véritable avec les autres en vue de créer un monde meilleur. L'acte de donner mène les chefs d'entreprise à des questions profondes au sujet de leur vocation. Comment notre réceptivité de l'amour de Dieu peut-elle animer les relations des différentes parties prenantes de l'entreprise? Quel type de politique et de pratique peuvent contribuer au développement intégral des personnes? On pourrait quasiment dire chef d'entreprise à charge d'âme, quoi. Globalement. Ce n'est pas le rôle de l'Église de prescrire de façon détaillée les actions des chefs d'entreprise. Cela revient aux praticiens et en règle générale, ce rôle est assumé par des laïcs. Le magistère de l'Église n'a pas de solution technique à proposer ou de modèle à présenter. Pourtant, l'Église nous enseigne qu'il n'existe pas de véritable solution de la question sociale hors de l'Évangile. On n'a pas de choses très pratiques, mais on essaie de vous distribuer l'Évangile, de vous donner l'Évangile. Voilà pourquoi l'un des aspects importants de la vocation du chef d'entreprise est la pratique des vertus, en particulier les vertus de sagesse, de justice. Les chefs d'entreprise qui font preuve de sagesse se comportent de façon vertueuse dans leurs activités au quotidien et cultivent la sagesse grâce à des pratiques et politiques concrètes. Dieu nous demande d'être ses mains et ses pieds, de poursuivre sa création et de l'améliorer pour les autres. Pour le chef d'entreprise, cela implique la création de biens qui sont véritablement bons et de services qui servent réellement. L'organisation d'un travail où les salariés peuvent développer leurs dons et leurs talents, la création de richesses durables, etc. Et il conclut sur la place de la vertu de foi, la vertu d'espérance, la vertu de charité. Donc il y a une dimension éminemment spirituelle et chrétienne du chef d'entreprise et donc de n'importe quelle responsabilité en entreprise et de n'importe quelle façon de travailler finalement. Donc j'espère vous avoir donné un tout petit peu envie de lire ce document, d'y réfléchir. C'est là-dedans que j'ai puisé, pour ceux qui l'ont vu hier soir. Il y a un appendice de ce document-là, cet examen de conscience, voilà, qui permet de varier un petit peu de grille de lecture pour ces confessions, ou qui permet aussi de faire un point avec son directeur spirituel sur sa façon de travailler, ou de s'interroger de temps à autre un petit peu sur... ces questions-là, donc ils sont là, n'hésitez pas à les emporter aussi avec vous, si vous voulez, ça vous resserve de temps à autre. Voilà, c'est tiré de ce document-là aussi. Voilà, j'espère à pas avoir été trop pénible encore. J'ai une question.
Je voulais juste ajouter par rapport au dernier document, tu as vu le parcours d'Achille qui finalement revient tout ça, et c'est vraiment... Ouais. C'est vraiment une mise en pratique qui n'est pas forcément facile à faire quand on lit juste un document. Et puis finalement, le fait de faire ce parcours permet de recentrer un petit peu le travail et la foi.
Parcours Zaché, vous connaissez les autres, non? Vous avez entendu parler? Vous connaissez Parcours Alpha? Ben, c'est pas ça. Parcours Zaché, c'est un parcours de découverte de la doctrine sociale de l'Église, proposé par la communauté de l'Emmanuel à la base, ou des gens de l'Emmanuel, je crois. Donc c'est des sessions qui se font sur un an, je pense, ou deux, je ne sais plus. C'est sur un an. Et c'est l'avantage d'être très pratique, de porter la réflexion sur des choses très pratiques. D'après ce que je sais, moi je ne l'ai pas fait et je n'ai pas vu.
Il y a des efforts finalement à faire concrets, voilà, dans son travail, donc c'est dur.
Ouais, ouais, mais bon, faut y aller quoi. Il faut y aller aussi en tant que chrétien, donc avec l'aide de la grâce de Dieu, des sacrements, etc., de l'Esprit Saint. Mais voilà, Parcours Zaché, c'est un truc qui existe assez dans beaucoup d'endroits, certainement à Paris, là où vous êtes ailleurs. Donc n'hésitez pas aussi à vous intéresser à ça.
Et il disait, c'est pas bien quoi. Ça devenait juste une ligne de plus sur le. Voilà. Et par exemple, j'ai aussi vu dans ma commune des arbres de Noël où on donnait aux gens qui avaient plus d'enfants. Non, le budget, il est que pour les enfants au moment où ils sont enfants, qu'on arrive qu'à 18 ans. Alors, on était à 16 ans. Et ce que c'est intéressant, c'est que moi aussi dans mon entreprise, une année, j'avais distribué de belles primes et j'ai oublié de faire le repas de fin d'année. Et j'ai dit, puisque j'ai distribué de belles primes, cette année on a bien marché, les primes avaient été bonnes. Peut passer du repas de fin d'année. Et bien en fait, non. Toute la fin de l'année d'après, on m'a tanné pour le repas de fin d'année, il fallait le faire. Et c'est pas tout seul le repas de fin d'année par rapport à l'utilisation des prévisions. Donc ça, je crois que c'est des moments, c'est très important. Je pense que c'est important pour tout le monde.
Ouais.
Ça paraît idiot, mais moi je l'ai vécu, je l'ai négligé moi-même. Et voilà, il faut dire fin de fin d'année, c'est. Enfin, tout ce qui participe dans les entreprises, des fois des Saint-Nicolas, etc. On peut se dire, ouais, c'est un peu suranné, on s'aperçoit que si on les enlève, même si on met la satisfaction économique en face, voilà, ça, la satisfaction économique ne se suffit pas à ces, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais ça rythme la vie. Et ça donne du sens des deux côtés de la barrière.
J'irais même un peu plus loin que ce que tu dis, au sens que non seulement c'est important et ça ne sera pas compensé par des chèques et autres, mais je dirais même que ça devrait être la préoccupation première, finalement. C'est-à-dire que la question de l'homme, du lien social, de la communion de ceux qui sont investis, qui sont rassemblés par l'entreprise d'une manière ou d'une autre, enfants, parents, etc., en fait, doit être en quelque sorte la préoccupation première du chef d'entreprise. Et donc, voilà, c'est une manière aussi pour moi d'aller plus loin encore, puis de dire bah, finalement ça a aussi sa place, c'est important, ça... mais même finalement c'est presque premier, quoi, à mon avis. Je ne suis pas à votre place. D'autres questions, réflexions ? Dans ce cas, monsieur. Si ? Ma réponse est plus accessible. Moi, j'ai pas l'impression que on a parlé d'ailleurs hier. Ouais.
Je pense qu'il y a une réponse en fait, c'est qu'en France, par exemple, 75% de la production agricole sert à nourrir les animaux. Donc en fait, si vous voulez manger pain de viande, on mange un peu plus simple. Et là, on a résolu déjà une bonne partie des cultivants. Mais est-ce qu'on veut.
Mais je pense que la théorie que tu dis d'impossibilité de nourrir la population, moi, je pense que c'est pas très assis pour l'instant comme thèse. Moi, je pense qu'il y a deux manières de voir les choses. Il y a se dire, le but, c'est de changer la planète, et on peut se poser la question si techniquement c'est possible. Mais il y a se dire, en fait, le message pour moi de l'encyclique, c'est de se dire, c'est pour nous qui sommes ici aujourd'hui, une question de cohérence, de toute façon, vivre autrement. Voilà. Donc, de toute façon, quel que soit le résultat qu'on pourra avoir derrière, de toute façon, c'est une nécessité humaine, éthique, et pour nous même spirituelle et chrétienne. Voilà. De plus vivre comme ça, parce que c'est incohérent avec notre nature même, d'hommes créés par Dieu, etc., dans l'environnement. Ensuite, le résultat de ça, je ne sais pas quel il pourra être. Je ne sais pas si... dans la foi chrétienne, on ne croit pas non plus à un paradis sur Terre. Pour nous, la cité, enfin, le paradis, ce sera au ciel, la cité céleste, la patrie du ciel, etc. Donc on n'a pas la prétention d'avoir les moyens d'instaurer sur Terre un paradis, parce que notre paradis ne sera pas là, de toute façon. Donc on ne croit pas à un changement radical et parfait, mais on croit à notre investissement, d'abord pour vivre convenablement sur cette terre, et aussi parce que c'est notre manière d'emmener cette terre dans son éternité aussi. Cette dimension un peu mystique et proprement chrétienne, c'est que notre travail, c'est la contribution à l'œuvre de Dieu qui est aussi en chemin vers l'éternité, quoi. Il y a une thèse à creuser. Dernière question ?
Oui,
deux dernières.
Il y a quelque chose qui m'a un peu gêné, c'est qu'on focalise en partie un peu l'énergie nucléaire, donc pour avancer de l'intérieur. Et moi, personnellement, enfin, dans ce que j'ai vécu dans différents pays, ça apporte quand même des solutions, justement, en Afrique du Sud, en Chine, enfin, pour éviter de consommer des ressources.
Ouais. Moi, j'ai pas l'impression que l'aide est stigmatisée plus que d'autres choses. Voilà. Comme tout, c'est un point d'attention qu'il faut faire, qu'il faut exploiter éthiquement. Je sais plus qui me parlait des déchets nucléaires qui travaillaient là-dedans à une époque. C'est toi. Voilà, qui est une autre vision un peu des choses. Donc voilà, peut-être. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'il ne pas stigmatise. Je pense qu'il a, enfin, pas plus que d'autres.
C'est un peu gênant, c'est d'aborder ce sans avoir la globalité.
Donc, ouais.
Comme les énergies renouvelables,
ouais.
En fait, pour plutôt parler d'énergie intermittente.
Donc, mais en fait, c'était pas, je pense que ce n'était pas le sujet.
C'est un petit peu prendre un petit peu la discussion générale actuelle sur le sujet, sans aller dans l'analyse. Ouais.
Mais de fait, c'est pas l'objet, enfin, je pense que c'est pas la prétention de cette encyclique. Ouais. Mais c'est pas une encyclique technique. Sur différents sujets.
C'est le côté un peu médiatique, bon,
Moi, ce que j'en tire, en tout cas, c'est la nécessité de réagir humainement et avec du recul et de la hauteur de vue sur tout ça, sur un peu tous les sujets, quoi.
Je pense que, le nucléaire, le souci, c'est ce qui frappe toutes les imaginations même des techniciens, c'est effectivement la durée dans laquelle on s'engage et qu'on met en place un processus nucléaire. Donc, je pense qu'il faut... C'est vrai que c'est un peu... Par contre, le mot est cité dans le détail, hein, c'est pas le charbon, c'est pas... Donc, c'est stigmatisation, je crois que c'est vrai. Je crois qu'il ne faut pas le prendre seulement comme une stigmatisation, mais comme la nécessité sur ce domaine-là, plus précisément, d'être particulièrement attentif. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, parce que c'est
ouais, non, bien sûr.
Que ça apporte des solutions.
Il faut l'utiliser, mais d'une manière responsable, prudente et sociale.
Voilà. Et donc, voilà, sauf que c'est une solution extrêmement délicate à mettre en œuvre, ouais. Et qu'on doit mettre en œuvre avec cette notion de réversibilité qui existe moins avec d'autres solutions. Mais c'est néanmoins nécessaire, et dans beaucoup de cas, c'est beaucoup moins polluant à pratique que le charbon. Il y a avoir en Allemagne qui nous arrête Paris régulièrement, parce qu'ils ont mis en place le contrat de charbon.
Merci de votre participation.